Le rendez-vous avec Singapour en France, le festival. Venez découvrir la culture et les arts de Singapour à travers plus de 70 événements. Retrouvez toute la programmation sur singapour-lefestival.com.
Et tout de suite, le rendez-vous.
Vous montrez quelque chose de ce que vous avez composé ?
Ce sont les violons ?
Les altos.
Attends, peut-être plus léger, sans les percussions.
Nous nous sentons si loin qu'aucun de nous ne bouge.
Eh bien, on assumera le lyrisme ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture, deuxième émission de notre série 40 ans de chansons françaises. Il sera question de la Pologne, de Provins, du Danemark, de cinéma, de voix, de Kieslowski et même de Carlos. Avec Dominique A qui signe Eleor, 11e album au lyrisme et classicisme assumé, et puis Regarder l'océan, 5e livre pour un autoportrait en 19 vagues, Émilie Chaudet.
Une poésie urgente des lieux imaginaires et réinventés, Dominique A nous interprétera tout à l'heure deux titres de son nouvel album, Eleor et les nouvelles vagues.
19h30, plateau BO avec Zbigniew Pressner à l'occasion de la réédition de ses musiques de films pour Krzysztof Kieslowski, portrait d'un compositeur autodidacte dont on retrouve aussi la signature chez Wong Kar-wai et Terrence Malick, Manu Farine.
Retour sur le parcours d'un compositeur qui fit progressivement entrer la musique au cœur du cinéma de Kieslowski jusqu'à s'inventer à l'écran et à la partition un double né au XVIIIe siècle.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez. On va l'ouvrir sur le son du jour.
Je ne laisserai personne insulter mon pays. Je ne laisserai personne insulter notre pays. Je ne laisserai personne insulter la France. Il faut que nous, les Français, leur disions que ici, c'est chez nous.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour.
C'est un extrait de la bande-annonce du film Un Français du réalisateur Diastème. Il sort demain et a fait parler de lui bien avant sa sortie. Ce film aborde la vie sur 30 ans d'un skinhead, donc militant de l'extrême droite français qui démarre dans les années 80. Dès que cette bande-annonce est parue, elle a suscité des réactions extrêmement violentes venues du milieu identitaire et notamment de Serge Ayoub, figure de ce mouvement. Par crainte de débordement et de représailles, donc 63 cinémas sur 65 qui avaient programmé une avant-première de ce film l'ont annulé, seul deux l'avaient maintenu. Diastème a fini par répondre à plusieurs interviews pour essayer de calmer le jeu et aujourd'hui il confirme sur sa page Facebook que le film sera bien visible dans 65 salles demain en France.
Et on passe tout de suite au dossier du jour consacré à la tauromachie. Cette pratique a été inscrite par le ministère de la Culture au patrimoine culturel immatériel du pays, le PCI. Et les adversaires de la corrida cherchent depuis 4 ans à faire annuler cette décision. Et depuis le 1er juin, une décision de justice de la Cour d'appel administrative de Paris semble leur donner raison. Mais les pros et anti-corrida ne lui confèrent pas du tout la même portée.
Oui, alors est-ce que la corrida est ou n'est plus inscrite à ce fameux patrimoine culturel immatériel de la France ? On a deux réponses selon les camps aujourd'hui. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir en 2011, donc quand l'UNESCO demande à la France de lister ce qui pourrait entrer dans ce fameux PCI, le patrimoine culturel immatériel. La tauromachie y est inscrite, finalement, comme l'explique Guillaume François. Il est avocat de l'Union des villes taurines de France et membre de la commission taurine de Mont-de-Marsan.
Il y a eu les polyphonies corses, il y a eu la fauconnerie, il y a eu la dentelle, il y a eu le repas gastronomique français et il y a eu donc la tauromachie qui a été reconnue au patrimoine culturel immatériel de la France en 2011. La tauromachie, c'est toutes les tauromachies. Il y a la corrida à l'espagnol, la corrida camarguaise, la course landaise, il y a tout ça. C'est un fait culturel. La tauromachie, c'est une communauté culturelle, c'est une culture, elle se transmet de génération en génération, elle a une gestuelle propre, elle a des rites, des codes, elle a une dimension environnementale avec tout ce qui est l'élevage du taureau brave, elle a des langages, elle a des costumes, bref, elle répond en tout point aux critères de l'UNESCO pour classifier dans le PCI. Parce qu'on peut aimer ou pas aimer la tauromachie, mais on ne peut pas nier l'évidence, c'est une culture dans les zones, comme le dit le texte de loi, dans les zones de tradition taurine ininterrompue.
En effet, mais les adversaires de la corrida s'insurgent contre cette inscription.
Ils y voient même une provocation, une manière de protéger la corrida qui est pour eux une pratique coupable, comme l'explique Jean-Pierre Garrigue, il est président du CRAC, le comité radicalement anti-corrida.
Ah ben c'est plus qu'un symbole, parce qu'il se trouve que le monde de la tauromachie, depuis maintenant 2 ans que ça dure, a trouvé une caution morale. Pensez donc au patrimoine culturel immatériel de la France, même pas des 11 départements du sud de la France concernés par cette pratique barbare, mais toute la France. Donc ça veut dire que nous, quand nous sommes attaqués en justice pour nos actions de terrain, quand on saute dans des arènes, à chaque fois, les avocats des aficionados nous disent « Mais attention, ces personnages-là, là, ces activistes, ces militants, ces abolitionnistes, ils s'attaquent au patrimoine de la France !»
Le CRAC accuse aussi le milieu de la tauromachie de chercher à faire des économies en réclamant grâce à ce statut la TVA réduite appliquée au monde de la culture.
Oui, alors c'est une information qu'il faut vérifier, il y a des enquêtes fiscales qui sont en cours, mais en tout cas pour toutes ces raisons, le CRAC a décidé d'attaquer cette décision. Tout d'abord, il a écrit au ministre de la Culture de l'époque, Frédéric Mitterrand, il a aussi lancé une procédure devant le Conseil constitutionnel pour contester la légalité de la corrida. Les deux procédures sans succès. Il a finalement entamé une procédure administrative. Le CRAC est débouté en première instance. Le tribunal confirme que la tauromachie fait bien partie du PCI français. Mais finalement, la cour d'appel, le 1er juin, infirme ce jugement et constate que la tauromachie n'apparaît plus sur la liste du patrimoine immatériel de la France sur le site du ministère de la Culture, comme l'explique Jean-Pierre Garrigue.
Quand, en avril 2011, la corrida a été annoncée comme étant au patrimoine, il y a eu un tel tollé de la part des citoyens français qui ont été des dizaines de milliers à écrire, à téléphoner au ministère de la Culture, que le ministère s'est rendu compte de sa bévue et a retiré toute trace de la corrida sur le site internet du ministère de la Culture. Normalement, ça apparaît à 3 endroits différents. Ça n'apparaît plus nulle part. Donc dans la mesure où la seule justification pour dire que oui, la corrida est au PCI, c'est justement cette fiche inventaire qui a disparu et qui n'est plus sur le site du ministère, alors le tribunal a dit « nous constatons que le ministère a abrogé la décision d'inscription au moment où il a retiré tous ces éléments. La corrida n'est plus du tout au patrimoine culturel immatériel de la France ».
C'est assez étrange. Mais pour le monde de la tauromachie, cette décision n'a bien sûr aucune valeur réelle.
D'ailleurs, l'Union des villes taurines de France a décidé justement de porter l'affaire devant la juridiction suprême, le Conseil d'État. Pour Guillaume François, avocat de cette Union des villes taurines de France, ce jugement du 1er juin ne répond absolument pas à la question sur le fond.
Tous les arguments qui étaient soulevés par le CRAC, notamment, qui était le principal opposant, devant le tribunal administratif de Paris, ont été balayés. Le CRAC nous disait on ne pouvait pas inscrire parce que cette pratique n'a pas lieu sur l'ensemble du territoire. Le tribunal administratif de Paris a dit il n'y a pas besoin que ça fasse consensus. Bref, tous les arguments juridiques ont été balayés. Ils ont fait appel et la cour d'appel a un peu tapé en touche en disant il n'y a pas lieu à statuer parce que du fait du retrait de la fiche d'inventaire sur le site du ministère de la Culture, on peut considérer qu'aujourd'hui c'est plus d'actualité. Alors les associations anti-taurines s'en gargarisent et disent la tauromachie a été désinscrite. Non, c'est retirer la fiche, ça ne veut pas dire abroger l'inscription à un patrimoine. Un patrimoine, une fois qu'on y est, ça ne s'abroge pas. Le seul processus possible, c'est pour l'UNESCO de dire c'est une culture qui est morte depuis que vous l'avez recensée. C'est la seule possibilité de désinscription, entre guillemets. Ce n'est pas du tout le cas avec la tauromachie.
Justement, et donc, les défenseurs de la tauromachie estiment que le Conseil d'État reconnaîtra effectivement qu'ils ont raison. En tout cas, le grand absent dans cette histoire, c'est le ministère de la Culture qui ne s'est toujours pas exprimé sur cette question, mais qui rappelle effectivement que lors de tous ces procès, dans les presses, les pièces écrites qui ont été fournies par le ministère, eh bien, le ministère confirmait que la tauromachie était toujours inscrite au PCI, à suivre donc.
Je vous voyais très étrangement intéressé, presque rigolard, Spignac-Bresnev, par rapport à ce dossier.
Malheureusement, corrida n'existe pas en Pologne. Et aussi, je voudrais demander quelles connexions ils sont entre corrida et ministère de la Culture. Ça, c'est quelque culture, corrida ici? Oh, excusez-moi, je pense que plus sportif.
Que la culture, bah, c'est tout le problème justement pour certains, ça n'est ni un sport ni même de la culture. De votre côté, Dominica, est-ce que ça fait une réaction?
Oh, au-delà des histoires de pour ou contre, moi je trouve qu'on a un rapport à l'animal désastreux. Je pense que d'ici un siècle, on nous considérera comme des barbares. Donc voilà,
Quel que soit le...
Oui, je pense qu'on a un rapport à l'animal vraiment, vraiment désastreux. Philosophiquement, c'est dégueulasse. Je suis pas végétarien, je... mais dans, enfin, vous savez, la mort d'un petit chat me fait pleurer, alors vous pouvez imaginer ce que je pense de la tauromachie.
Vous êtes très Agnès, en fait.
Pardon ?
Vous êtes très Agnès, en fait.
Agnès ?
L'école des femmes. On passe au bref.
Et l'on ouvre avec cette nouvelle plainte contre la nomination par le CSA de Delphine Ernotte à la présidence de France Télévisions. C'est le syndicat CGC qui est l'auteur de cette plainte et également d'un recours devant le Conseil d'État. La plainte s'appuie, je cite, sur des soupçons d'abus d'autorité et de manquement à l'obligation de probité du CSA dans la procédure de nomination et vise en particulier le délit de trafic d'influence. Didier Quillot, candidat malheureux, avait déjà lui aussi saisi le parquet qui peut décider d'ouvrir une enquête.
L'équipe nationale française paraîtra mercredi au format tabloïd.
Alors c'est l'équipe nationale française, excusez-moi je l'ai mal dit, c'est le grand quotidien sportif français et qui présente cela comme un test puisque l'équipe paraît depuis sa création en 47 au format broadsheet, grand format 56 x 38 cm. Mais une partie de son lectorat plaide pour un passage au tabloïd adopté par de nombreux journaux dans la fin des années 2000.
14 journalistes tombés en couvrant les conflits en 2014, honorés par le...
Newseum. Le Newseum, eh bien oui, parmi eux l'Américain James Foley, exécuté par les djihadistes en Syrie, et la Française Camille Lepage, tuée en Centrafrique. Ils sont donc honorés par le Newseum, musée américain consacré au journalisme à Washington, qui les a inscrits pour la première fois cette année à son mémorial. 80 journalistes en tout sont tombés dans l'exercice de leur métier l'année dernière et figurent sur cette liste.
Il y a une dernière ?
Il y a une dernière, c'est une affaire de dinosaures ou de réalités qui pourraient égaler et pourquoi pas un jour dépasser la fiction. Et oui, il y a eu le Cheltenham Science Festival au Royaume-Uni, c'est un festival de science. Et a parlé lors de ce festival Jack Horner. Jack Horner, c'est un paléontologue. C'est lui qui a servi de modèle pour le professeur Alan Grant, qui est le héros de la série Jurassic Park de notre ami Steven Spielberg. 3 épisodes, vous le savez peut-être, Jurassic Park, Jurassic Park 2 et Jurassic World. Et donc on lui a demandé...
Vous n'êtes pas obligé de décliner tous les...
Bah si, parce que justement, il a eu toute une série de questions de fans pour savoir qu'est-ce qui est plausible ou pas. Alors, s'il pense que les deux premiers Jurassic Park sont complètement invraisemblables, le troisième qui voit en fait revenir des créatures génétiquement modifiées grâce à des scientifiques, eh bien il le juge assez plausible. Il explique que en fait... On n'a pas encore pour le moment d'ADN précis de dinosaures, mais qu'on peut créer des animaux transgéniques. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut tout prendre, et on peut prendre tout un tas de gènes à partir d'autres espèces animales. On peut donc les mixer pour créer un nouvel animal qui pourrait ressembler à un dinosaure. On est presque proche de la fiction. Et lui-même a révélé qu'il travaillait lui-même sur la constitution de reconstituer une espèce préhistorique hybride qui pourrait voir le jour dans une dizaine d'années. La réalité dépasserait donc la fiction.
Merci Zoé, on se retrouve demain pour la suite de ce journal de la culture.
Avec plaisir.
C'est le cas de le dire. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des réactions de la part de nos invités à tout ce que l'on vient d'entendre ? Bigniew Presner ?
Heureusement qu'il n'y a pas de dinosaures en Pologne.
C'est ça, animal, c'est ça.
Je suis pas sûr. J'ai jamais vu un film qui s'appelle Jurassic Park.
Ouais.
Pas mon style, non.
Pas vu, pas pris.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Esprit des Lieux avec vous, Dominica, deuxième invitée de notre semaine 40 ans de chansons françaises. Dominica, compositeur, interprète, parolier, écrivain. Ça commence au tout début des années 90. Premier album, c'était en 91. Aujourd'hui, on en est au 11e, Éléor, paru sous le label 5-7 chez Wagram. Et puis, 5e livre, Regardez l'océan, paru aux éditions Stock. C'est en 2001, je crois, que vous commencez à écrire par ailleurs.
Je ne saurais plus vous dire. Un petit peu plus tard, je crois. Enfin,
à quel moment, véritablement, vous basculez du côté de l'écriture ?
En fait, il y a eu un petit essai sur une maison d'édition qui s'appelle La Machine à Cailloux, qui se propose de faire parler, écrire plutôt des gens de ma génération, des jeunes chanteurs, enfin des jeunes.
Mais oui, des jeunes.
sur leur pratique, sur le pourquoi du comment ils sont venus à l'écriture de façon assez libre et ça m'a donné vraiment les réactions suite à ce petit topus m'a donné envie de remettre le couvert d'aller sur un terrain plus littéraire toujours sur le mode de l'autobiographie parce que autant par rapport à la musique j'aime l'idée de faire des chansons qui soient très fictionnelles dans lesquelles la part personnelle est un petit peu dissimulée par la fiction. Autant par rapport à l'écriture en prose, j'ai besoin de ce recours à l'autobiographie finalement pour écrire tout simplement.
Zbigniew Prezner, est-ce que vous connaissiez Dominika?
J'ai vu aujourd'hui, honnêtement, quelques chansons à Internet, parce qu'en Pologne, malheureusement, la musique française, maintenant, elle n'est pas très souvent. Dans l'époque, l'année 60, 70 ans, je me souviens que les chansons françaises en Pologne, c'était un vraiment grand succès. Les personnes comme Edith Piaf, comme Aznavour, comme Jacques Brel, c'était un énorme succès. Les chansons polonaises, par exemple, comme Mon Cabaret à Cracovie, elles étaient très proches des chansons françaises. Le style, les mots, la musique, etc., etc. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais la musique française en Pologne, elle n'était pas présentée très souvent. Mais, excusez-moi, monsieur.
Non, pas de souci.
Je ne suis aussi pas souvent en Paris.
J'ai joué à Varsovie. Enfin, j'ai fait une petite tournée en Pologne. J'avais joué aussi à Cracovie.
Cracovie, en vrai.
Oui, il y a une bonne dizaine d'années, même plus que ça, une douzaine. C'était avec l'Alliance française polonaise.
Ah ouais.
Et j'avais joué notamment dans le club sous le grand bâtiment à Varsovie, le bâtiment central, je sais plus comment il s'appelle, le cadeau, je crois, de Staline.
Ah oui, ça, il est un grand salle, ouais, c'est vrai. Pas bon acoustique là-bas.
Non, c'était le petit club, petit cabaret.
Oui, il y a un jazz.
Ouais. Mais il y avait une réceptivité, les gens étaient très à l'écoute. Hein, c'était évidemment, ils découvraient. Hein, ils me connaissaient.
Probablement maintenant, ça n'existerait pas.
Peut-être.
En Pologne, tout change. Pendant 10 ans, ça, c'est une époque en Pologne.
Oui. Vraiment, époque. Ouais, ouais. C'est une génération.
Oui, j'ai une génération et aussi, à mon avis, ça, c'est un différent style de musique. Complètement. Parce que moi, quand je commençais à travailler en Pologne, par exemple avec Kieślowski, enregistrement, l'orchestre, c'était 100%. C'était pas un multitrack. Il faut installer l'orchestre.
Et puis, poum.
Oui, s'il y a quelqu'un faute. Retourner. Maintenant, tout le monde enregistre pour Pro Tools 160 pistes, mais après, il y a un problème, parce que ce n'est pas des problèmes de pistes, c'est des problèmes si vous avez quelque chose pour dire, quelque chose pour composer, quelques messages pour notre spectateur, c'est tout.
En parlant d'orchestre, d'ailleurs, ce que l'on entend dans Eeyore, c'est la présence d'un orchestre que l'on entend sur la plupart des morceaux. Oui. 4 altos, 10 violons, 3 violoncelles. Et vous dites à ce sujet que vous aviez envie cette fois de classicisme et d'assumer un certain lyrisme. Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ces mots, Dominika?
Oh, bah, une idée de chanson française assez traditionnelle, assez classique pour le coup. Voilà, pas revendiquer les références à l'âge d'or, aux années 60 et aux grands anciens, mais cette idée de ne pas, en tout cas, de ne pas avoir peur de la référence et d'être associé, parce que en France, de toute façon, je pense qu'on est à partir du moment où vous chantez en français, vous êtes irrémédiablement lié à cette tradition. Et alors, au début, quand on est jeune, on rue un peu dans les brancards, on se dit non, pas moi.
En 90, c'était votre cas? C'était
c'était
pas moi.
Je fuyais le lyrisme, je fuyais tout ce qui était on va dire presque sudatoire lié à Brel et à son corps exultant et suant. Et puis je me suis rendu compte sur scène, j'étais le premier à transpirer comme des sauts par sauts. Et puis il y avait un rapport physique que je voulais que la musique soit dégagée du corps, en fait, qu'elle soit comme une émanation, mais qu'elle soit qui est pas un rapport physique aux choses, alors que je crois que sur scène je suis assez physique.
Et donc le corps, est revenu.
Voilà, il y a eu une acceptation et du coup, étant passé par différentes étapes musicales, là j'ai eu envie de pas de me confronter à ça, mais d'assumer un certain classicisme dans l'idée d'une chanson française, on va dire avérée, classique.
Eh bien, on va écouter ça tout de suite. Je vous laisse regagner le micro avec Eeyore. Dominika, c'est à vous, en direct du show 108 sur France Culture. Vous êtes accompagné du bassiste Jeff Allan. On vous écoute, c'est la chanson qui a donné le titre à l'album.
Quand de tout vous serez lassé, juste un canal à traverser, rejoignez-moi. à Éléor. Avant que la vie ne se défile, avant de gagner l'autre bord, rejoignez-moi à Éléor. Les vestes pendues au pater et l'immuable pour bréviaire, les tracés blancs sur la chaussée, fourmillement de mille pensées, les galeries à ciel ouvert, où vont les figurines pressées. Quand de tout vous serez lassé, juste un canal à traverser, rejoignez-moi à Éléor. Avant que la vie ne se défile, avant de gagner l'autre bord, rejoignez-moi à Éléor. Ville d'abandon de bord de mer, longue semaine à négocier, oh Dieu, que ce silence rend fou. Dans la brume en pièces détachées, qu'avons-nous encore à cacher, quand il reste si peu de nous. Oh Dieu, que ce silence rend fou, quand délibèrent nos cellules, comme alors l'air est minuscule, même l'air. Quand de tout vous serez lassé, juste un canal à traverser, rejoignez-moi avant que la vie ne se défile, avant de gagner l'autre bord, rejoignez-moi à Éléor.
Merci. Merci.
C'était le morceau Éléor qui donne donc son titre au 11e album de Dominique A. C'était en direct du studio 108 sur France Culture. On vous laisse regagner votre fauteuil, Dominique A. Et pour commencer, une question sur le titre de l'album. C'est le nom d'un fjord au Danemark, dites-vous, sur lequel vous n'êtes jamais allé.
Non.
Qu'est-ce qui a déclenché cette chanson ?
Le mot.
Juste comme ça. Le mot. Juste le mot.
Ouais, le mot m'a plu, en fait, tout simplement. Et la sonorité du mot, enfin tout de suite, ça, pour moi, c'était un nom de lieu, de un échappatoire. Je l'ai tout de suite identifié comme ça, donc je sais pas, c'est l'imaginaire qui a fait son chemin.
Vous dites que c'est un morceau un peu accidentel, c'est le terme que vous employez. Vous dites que ce morceau a pris aussi tout le pouvoir sur le reste du disque.
Ouais.
Qu'est-ce que ça dit, ça, de votre manière d'écrire ?
Ça dit que j'aime ne pas contrôler les choses et me laisser libre cours à ce qui vient et après organiser ce qui vient justement, ne pas évidemment pas laisser tout en l'état en chantier, mais faire de cette espèce de chaos qui est la conception d'un disque, un assemblage de morceaux, quelque chose d'un ensemble cohérent, homogène à partir de choses qui sont très hétérogènes, quoi.
Zbigniew Brzeznew, j'ai pu lire qu'au départ, vous écriviez aussi des chansons.
Ah oui, mais c'était un début quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, l'année 70. Ouais, parce que comme tout le monde, j'ai commencé mon carrière comme musique de rock. Les groupes comme Pink Floyd, Rolling Stones, Crimson, c'était mon héros quand j'étais jeune. Mais à propos de cette chanson qu'on écoute maintenant, ça c'est un très bon exemplaire. S'il y a deux très bons musiciens, la bonté musicale, ça suffit, nous ne bossons pas l'orchestre. C'est vraiment fantastique.
Merci.
Dans ce groupe de rock, vous chantiez ?
Excuse-moi.
Vous chantiez?
Oui, je chante. Ouais, jusqu'à aujourd'hui, oui, parfois, oui, je chante. Ouais, ouais, ouais. Au moment cabaret, oui, ouais, quand les blagues, pourquoi pas.
Sur le plan de l'écriture, justement, je me demandais si vous aviez une méthode. Jacques Higelin nous avait raconté la façon dont il compilait ses textes dans des classeurs.
Ouais.
Il stabilotait les textes. Ouais. Pierre Grillet, l'auteur de Madame Rêve pour Bachung, nous expliquait qu'il fonctionnait par des collages de bouts de textes. On est comme ça. Vous, est-ce que vous avez une méthode, Dominica?
Bah, la méthode, c'est simplement l'idée première. Bah, comme Eleor est un bon exemple, en fait, le mot entraîne le déroulement du texte. Alors, c'est, on va dire que c'est un jour faste, hein, c'est pas tous les jours. C'est pas la moindre idée qui vient apporter, qui est. Mais souvent, ça procède d'un premier jet qui est finalement assez peu retravaillé. À partir du moment où je me sens bien physiquement avec le texte, finalement, j'ajuste après tous les mots qui me semblent ne pas aller de soi, ou je corrige ça, mais ça reste assez près du premier jet, en fait.
Émilie Chaudet.
Votre grande influence, c'est Alain Bachung aussi. Vous parlez de l'album
Entre autres.
Vous parlez de l'album L'imprudence, ouais, qui a bouleversé votre univers musical, un album qui est sorti en 2002. En quoi est-ce qu'il a bouleversé cet univers-là?
Il a, dans la mesure où je ne comprenais pas comment on écrivait des chansons, je comprenais pas comment on faisait des chansons de cette nature, en fait, comment on pouvait écrire des chansons de cette façon-là, enfin ces arrangements, cette façon de faire éclater la structure. Et puis en fait, c'est tout simplement, c'est une méthode de collage, en fait. Donc il a fallu que je passe par un travail avec la même équipe qui avait travaillé sur l'imprudence de Bachung,
ah oui,
savoir le collectif Gecko, et j'y suis allé comme on va à une séance d'initiation, en fait, pour savoir comment on procède pour faire des musiques pareilles, parce que je me disais sinon que j'allais en fait tourner autour, que j'allais buter contre cette question-là et pas m'en libérer, en fait. Je suis allé faire ce disque avec ces gens-là pour justement me libérer du poids de ce disque. Et une fois que je l'ai fait, bon ben c'était pas le meilleur disque que j'ai fait, mais ça m'a permis vraiment de me, je crois que des fois il est bon d'aller droit à l'échec pour revenir à soi.
Vous l'avez écrit des textes à Alain Bachung?
J'avais écrit une chanson qui s'appelle Immortel, que j'ai reprise pour moi parce qu'il ne l'a pas gardée. Je sais qu'il a fait plusieurs versions.
Il a fait plusieurs versions, c'est-à-dire?
Il y a eu plusieurs versions de cette chanson, il l'a enregistrée plusieurs fois.
Ah d'accord, parce que quelquefois il intervenait même sur les textes aussi.
Non, là je crois qu'il l'a vraiment gardée telle qu'elle, en l'état. C'était sur le dernier album où il était dans un rapport justement où il voulait revenir à la chanson. Justement moins éclaté, avec des structures assez établies. Et peut-être que la chanson était un peu lourde par sa thématique, puisque c'était à la fin de sa vie. Je sais qu'il a vraiment tourné autour de cette chanson, que la maison de disques lui mettait la pression par rapport à cette chanson-là. Et on m'a dit, alors ça, c'est une source officieuse, mais que justement, il a voulu contrarier sa maison de disques et il n'a pas inclus à cause de ça.
Émilie.
Comme à tous nos invités, Dominique A, on vous a demandé de choisir un son qui vous a particulièrement marqué, et voici ce que vous avez choisi. Qu'est-ce qu'on entend?
C'est la BO de Portier de Nuit, le film Portier de Nuit de Liliana Cavani. Alors, pour être honnête, ça a été la première idée qui m'est venue quand vous m'avez posé la question. Je me suis dit un son, et tout de suite, très égoïstement, je me suis dit quel son j'aimerais écouter là, maintenant, et c'était ça.
Vous savez pour quelle raison ?
Cette musique m'a vraiment marqué, m'a vraiment accompagné pendant une période de ma vie, tout simplement, et j'aimais cette ambiance, plus pour la musique que pour le film, d'ailleurs, qui est le film qui est très controversé sur les amours entre une ancienne déportée et son ancien gardien de camp.
Charlotte Rampling
et Dirk Bogarde. Et au-delà du film lui-même, la musique, la nostalgie qui est véhicule m'a touché, en fait.
Hier, nous recevions le chanteur Kent, que vous connaissez bien, puisque vous avez déjà chanté avec lui « Je suis un kilomètre » sur l'album Panorama. Et il a une question pour vous.
Très bien. Je voudrais savoir si, tout comme moi, il a besoin parfois de se justifier auprès de certaines personnes dans le milieu musical de son appartenance à la fois à la chanson française et au milieu rock.
Lui, il en a souffert, manifestement, pour qu'il vous pose cette question.
Oui, mais lui, il vient vraiment, en plus, bon, avec Star Shooter, son premier groupe, il a été considéré, je pense, à un moment donné, comme un traître, parce qu'il avait renié mais c'était une époque aussi où on était beaucoup plus, tout était beaucoup plus chapellisé. Là, c'est un peu plus ouvert. Donc, je dirais que oui, enfin, de toute façon, en général, on vous demande de vous justifier quand vous faites une activité artistique, mais ce qui est d'une certaine façon assez normal, puisque vous...
Mais est-ce qu'il y a eu, par exemple, un album ou un moment de votre parcours où vous avez senti que les gens vous demandaient de vous positionner par rapport à ce que vous faisiez, qui était peut-être en contradiction avec vos débuts ?
Bon, ça arrive encore. Il y a des gens qui viennent me voir, pas contents, en me disant voilà pourquoi tu fais ça aujourd'hui. J'aime mieux les anciens trucs. Voilà. Après, je considère que suivant les jours, je réponds ou pas. Je me sens pas l'obligation de. C'est pas quelque chose dont je souffre en fait.
Demain, nous recevons Nash, la sœur dans la famille Chédid, qui sort son premier album. Quelles questions vous lui poseriez,
Dominique ? Alors, je ne connais pas ce qu'elle fait, donc j'en suis désolé. Peut-être qu'on parle souvent, enfin, on me pose des fois la question, la part féminine de la féminité de la musique, qu'est-ce que je mets ? J'ai envie de poser la question inverse à une femme. Voilà, quelle est la part masculine dans son activité de chanteuse ? Elle la voit où ? Voilà.
Ses frères et son père.
Le rendez-vous.
Plateau rétrospective avec vous, Zbigniew Pressner. Vous êtes compositeur de musique de film, largement associé à la filmographie de Krzysztof Kieślowski, avec qui vous avez collaboré à 17 reprises entre 84 et 97. On vous doit aussi la musique d'Elisa de Jean Becker, couronnée d'un César, celle de Fatal de Louis Malle, des collaborations avec Hector Babenco, Claude Miller. Par exemple, dernièrement aussi, il y a eu une composition pour La Grande Ebeliesa, c'était le Dies Irae, qu'on entendait dans le film de Paolo Sorrentino en 2013. Aujourd'hui paraissent les bandes originales de Bleu, Blanc, Rouge, la trilogie de Kieślowski, sortie en 93 et 95, de La Double Vie de Véronique, 90, et du Décalogue en 87 chez Because MK2. C'est grâce à Kieślowski que vous avez appris le français ?
Comment je dirais, oui, ça... C'était belle époque, très belle époque ici en passant avec Christophe. Je me souviens la première fois quand j'étais à Paris, en 87 je pense, nous étions complètement pourris. Et à côté, ça jamais de près, le grand poster avec Short Film About Killing. Votre distribution, c'était Emmanuel de la Fuente, je pense. Et Christophe a dit, écoute, un jour, on viendra ici. Un jour, on a fait un grand film français. Et finalement, après 2 ans, on a commencé Double Vie de Véronique et après Trois Couleurs, Le Blanc Rouge.
Ici même en France.
Ouais.
Et c'est grâce à lui que vous avez donc appris le français.
Ouais. C'était par hasard complètement. Christophe l'a dit, écoute, quelqu'un qui doit parler français un peu, mais il m'a dit, ok, toi, tu es compositeur, tu dois apprendre français. Qu'est-ce que je dois faire ?
Manu.
À l'époque où vous rencontrez Kieślowski, vous avez déjà composé, je crois, une musique de film, en parfait autodidacte, puisque vous n'avez suivi aucune formation musicale autre qu'enfant à l'école. La musique, ça passe donc par le chant, on l'a entendu, le piano, et puis un célèbre cabaret à l'époque, à Cracovie, sur la Grande Place. Mmh. Le nom en français, ça donnerait quelque chose comme la cave sous les moutons, je crois. Qu'est-ce qu'un tel lieu représentait à l'époque, et qu'est-ce que vous y faisiez ?
C'est le cabaret ? Écoutez-moi, les Cracovie, dans cette époque, dans l'époque du communisme, les 7 cabarets, c'était, à mon avis, seulement une place complètement libre. Parce que c'était pas beaucoup de spectateurs, 100, 120 maximum, chaque soirée, ça dit, chaque samedi. Et le gouvernement, le Parti Socialiste, ils pensaient, ok, il faut donner un pouvoir tout doux, qu'est-ce qu'il veut, parce que ça, c'est pas très important, pas beaucoup de spectateurs. Mais ça, c'est, pour moi, ça c'est vraiment, ça c'est liberté là-bas. J'ai jamais trouvé quelque tension du communisme. Parce que là-bas, au sous-sol, nous étions complètement indépendants. Et aussi, pourquoi le cabaret? Parce que Piotr Skrzyneski, le chef de cabaret, il a dit que le cabaret, ça c'est le mot qui était né ici en France. Qu'est-ce que c'est besoin pour bon art? Cavre, bar et être. Et ça, être, c'est plus important. Et au cabaret, c'est non cabaret, c'est bar, c'est cavre, et être, c'est un art. Et dans cette cabaret, j'ai composé beaucoup de musique, c'est pas les chansons comme vous, mais aussi j'ai essayé comme ça, mais parce que moi, je voudrais être différent comme mon copain compositeur, j'ai composé musique pour toutes les, par exemple, interviews. Parfois, le secrétaire de parti, il a donné une interview, pourquoi il a fait quelque chose comme ça, moi, j'ai composé la musique. Le censeur en Pologne, il a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Rien du tout, ça c'est un journal, je voudrais sûrement faire une promotion pour cette interview. Mais, pour le spectateur, c'était absolument quelque rigole, absolument quelque chose de très important, quelque chose qui était au contraire de toute situation politique en Pologne. Et ça, comment j'ai commencé mon carrière, après Kieślowski, après Varsovie, après le film, après ça.
Première collaboration, c'est en 84 avec Sans fin,
oui.
Un film qui aura des difficultés à sortir et qui revenait sur les débuts contrariés de Solidarność. Et de cette musique-là, vous aviez dit dans un entretien en 2008 qu'elle était la meilleure que vous ayez composée pour Kieślowski. Est-ce que vous êtes toujours d'accord et qu'est-ce qu'elle avait de si particulier ou de différent de vos autres collaborations?
Je vais vous dire, oui, j'adore ce film, j'adore cette musique, parce que quand j'ai vu cette fille la première fois, c'était mon première collaboration, Christophe m'a demandé de composer la musique. Ça, c'est pas, aujourd'hui, normalement, j'ai vu un réalisateur, je prends un DVD au programme de coordinateur pour Pro Tools, j'aime pouvoir regarder à la maison. En cette époque, j'étais à Varsovie, j'ai vu un film, je viendrai à Cracovie, et après, il te souvient, il composait la musique. Et je me souviens qu'après, quatre fois, quand je vis ce film à Varsovie, j'ai dit, Christophe, ce film ne besoin pas la musique. Il a dit, pourquoi? Mais écoute, ce film ne besoin pas la musique, parce que chaque musique, ça va casser ce film. Et après, il m'a dit, non, écoute, j'ai besoin de la musique, tu es compositeur. Et après, j'ai pensé, ok, il faut faire quelque chose qui s'appelle, excusez-moi, je peux pas.
Les aïeux, c'est une allusion à l'épopée nationale polonaise de Mickiewicz.
Ça veut dire quelqu'un, ça c'est en Pologne, j'ai oublié les mots. Ça c'est quelqu'un, comment je dois dire en polonais?
Vous avez parlé d'un rite, rituel.
Quelqu'un est rituel. Et je me souviens, je prends un orchestre, nous sommes au studio, on installe un micro, je demandais des micros en haut, et on commence un geste, et je dirais d'après l'orchestre, excusez-moi monsieur, j'ai marqué, pouvez-vous chanter avec? Il a dit, chanter avec? Monsieur, vous êtes trompé, il n'y a pas le cœur ici. Je dis, non. Je voudrais que vous chantez comme à l'église. Si vous en chantez faux, ça m'égale. Et on commence, et la musique, ça commence, parce que je me souviens, cette époque, je me souviens cette tension qui est en Pologne. Et on, l'orchestre, ça commence, chante. Et petit à petit, l'orchestre commence à jouer. Et Christophe a dit, écoute, ça c'est fantastique, parce que premier qui est mort, il a un marche funérable. Malheureusement, ça c'est le marche qui était pour lui, après 10 ans.
Manu.
Avec Kieślowski, vous partagez le goût du ski, notamment, de la forêt, de la littérature. En musique, lui, il était plutôt à demander de faire simple, hein, il faisait même souvent la chasse au vibrato. Vous êtes de ceux qui pratiquaient des ruptures, des silences, parfois des charges symphoniques assez puissantes, des phrases musicales qui montent, des lignes mélodiques très entêtantes. Est-ce qu'il a pu arriver qu'il y ait des points de désaccord en musique entre vous?
On a discuté beaucoup de fois. Ça veut dire, Christophe, il comprend absolument parfait les fonctions musique pour le film. Il a jamais parlé avec moi par rapport aux mélodies, instrumentation, orchestration, les voix, etc., etc. Toujours il a dit, écoute, musique, c'est pas pour moi. Je comprends pas la musique. Mais il comprend les tensions. Il comprend les fonctions. Chaque fois qu'on a fait la musique pour le film, il m'a demandé, écoute, je voudrais ça, ça et ça. Et je me souviens que très important, pour moi, comme le compositeur de musique des films, pour moi, très important, ça, c'est pas la musique illustrative. Musique, ça, c'est quelqu'un métaphysique dans le film. Sinon, un métaphysique qui est pas visible. Parce que, pratiquement, nous écoutons les musiques. Et pour moi, la musique pour le film, Elle doit expliquer quelque chose, quelque intention qui existe dans le film, mais pas visible. C'est-à-dire, ta musique, elle doit parfois anticiper quelque chose. Parfois, je suis avec les spectateurs. Parfois, je suis avec les comédiens, comme pour les Bleus avec Binoche. Oui, ça, avec Christophe, la collaboration, ça a été fantastique parce que d'abord, on a passé beaucoup de temps, on n'a jamais parlé. Et au cinéma, à la culture, jamais. On n'a jamais discuté.
Politique ?
Politique, ski, voiture, tous. Mais
Corrida.
Pas.
Hein ? Corrida.
Jamais.
Dominica, vous avez aussi composé la musique, je crois, une seule fois, la musique d'un film, Banqueroute, d'Antoine Desrosières.
Oui, oui.
Ça ne...
J'ai fait aussi, oui, des pour une réalisatrice qui s'appelle Darielle Tillon pour des. Mais c'est pas.
C'est pas l'exercice.
Je me sentais pas légitime du tout. Je pense justement que moi, j'essayais de. Je pense qu'il faut être vraiment au service d'eux, être vraiment dans un rapport, dans une compréhension de la fonction de la musique à l'écran, et je l'ai pas. Je pense que c'est très intuitif. Je pense que c'est quelque chose qu'on a ou pas en soi, au-delà de ses capacités de composer. C'est vraiment ce rapport entre l'image et la musique. C'est pas quelque chose que j'ai forcément.
Je pense que c'est la même histoire qu'avec
avec les
lyriques. Je pense que chaque film, il y a une musique dedans. Seulement, il faut trouver cette musique. Mmh. C'est la même. Bah, je suis d'accord avec vous. Parfois, quand je prends un mot, un poème, je lis, je dis immédiat, ok, super, ok, je compose la musique. Parfois, je prends les poèmes, je lis, je dis non, ça m'intéresse pas, il n'y a pas, ça c'est pas, ça. Oh, cette poème ne besoin pas la musique. Parce que c'est pas vrai que chaque poème, il besoin la musique. Mmh. Parfois, les poèmes, les mieux sans musique, avec musique.
Oui.
Mais c'est vrai que vous demandez comment vous avez travaillé. Ça, si quelqu'un me demande, je vais dire, je ne sais pas comment. Ça, c'est instinct. C'est mon instinct. Vous regardez le film, vous avez l'intention, parler avec le réalisateur, c'est sûrement ça. Parfois, les premières réactions, c'est plus important.
Comme à tous nos invités, on vous a donc, à vous aussi, demandé un son qui vous a marqué. Vous nous en avez donné deux, on en a pris un.
Słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen, kantyczki deszczu wam przyniosę. Wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie.
Qu'est-ce qu'on entend et la raison pour laquelle vous l'avez choisi? Alors, vous nous avez demandé cette chanteuse-là à l'Olympia. Nous, on voulait trouver à Bruxelles parce que l'Olympia, on l'a pas trouvée. Pourquoi à l'Olympia et c'est qui?
Ça, c'est Eva Demarchik. Eva Demarchik, on va dire en français. Elle était un plus grand chanteur en Pologne dans cette époque, l'année 60. Elle était la première femme qui était invitée à l'Olympia par monsieur
Bruno
Cocatrix, donc à l'Olympia.
Elle était ici, oui, l'année 64. Elle a fait un grand concert, elle a une grande chance, elle a fait une carrière ici en France. Elle était très proche de la chanson et la voix d'Edith Piaf. Elle était Edith Piaf en Pologne. Mais malheureusement, après, elle viendra en Pologne, après problème de passeport. Et le rêve par rapport à la carrière, ça perdit.
À nous ?
Votre musique a été réutilisée par d'autres cinéastes, hein, notamment par Wong Kar-wai pour 2046, par Terrence Malick pour The Tree of Life qui avait été primé à Cannes. Comment est-ce que vous comprenez ça ? Est-ce que c'est comme une entrée au patrimoine ou plutôt comme le signe, au fond, de l'affaiblissement de la musique de film, c'est-à-dire qu'on fait de moins en moins de commandes ?
Oui, maintenant, à mon avis, dans 2-3 ans, les compositeurs de musique des films, cette profession, ça va être finie complètement. Je sais pas pourquoi, mais maintenant, beaucoup plus souvent, réalisateurs, bons réalisateurs, réalisateurs qui ont beaucoup de talent et beaucoup d'expérience, ils préfèrent acheter les musiques qui existent, on prend les musiques différentes, je sais pas, peut-être ils ne voudraient pas prendre un risque, peut-être parce qu'enregistrer maintenant est devenu très cher, l'orchestre. Peut-être le temps, ça change. Ok, la belle époque, musique de Fellini, de Nino Rota, de Morricone, etc., etc. Neumann, ici, Michel Legrand, Georges Delerue, c'était grand compositeur de musique de film. À mon avis, maintenant, ça va pour lui aussi, ça va être un problème à trouver. Trouver le bon film et réaliser son conception. Ça, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est le temps comme ça.
Le rendez-vous, la session.
Eh bien, le temps, ça finit par une chanson ce soir, Émilie Chaudet.
Eh bien, Dominique A, on vous retrouve tout de suite pour un dernier titre issu de votre album Eleor, Nouvelle Vague. Vous êtes toujours accompagné de Jeff Alam à la basse, en direct du studio 108 sur France Culture. C'est à vous.
Je ne t'apporterai que des nouvelles vagues, comme d'un autre pays, d'une autre saison, sans que tu le demandes. J'annulerai certains noms, comme on vide le poison contenu dans la dague. Et tu pourras bientôt sortir de la maison. Pas un jour où l'amour ne t'a pas relancé, pas un jour où tu n'as lutté contre le sort qu'un amour de malheur, malheur t'avait jeté. Il t'envoyait encore des signaux de fumée. Je ne t'apporterai que des nouvelles vagues, des histoires envahies de points de suspension, la bouche délestée du poids de certains noms qui sont comme l'acide jeté sur un visage. Et tu pourras enfin sortir de la maison. Pas un jour, mon amour, je ne t'ai caché tes mises hors de portée, de qui ciblait ton cœur. J'étais le paravent des signaux de fumée. J'étais la sentinelle face au chant des frayeurs. Je ne t'apporterai que des nouvelles vagues, comme d'un autre pays, d'une autre saison. Sans que tu le demandes, j'annulerai certains noms, comme envie de poison contenu dans la dague. Je ne t'apporterai que des nouvelles vagues, des histoires envahies de points de suspension, la bouche délestée du poids de certains noms qui sont comme l'acide jeté sur un visage. Je te ferai enfin sortir de la maison.
Merci.
Merci.
Dominique A et le bassiste Jeff Alam, c'était Nouvelle Vague, extrait de votre nouvel album Dominique A et Léor.
Heureusement qu'il n'y a pas de dinosaures en Pologne.
Jamais.
Merci à nos invités. Dominica Eleor est sortie sous le label 5-7 Vagram. Regardez l'océan, c'est aux éditions Stock. Et je signale qu'il y aura un documentaire Dominique A, la mémoire vive, qui sortira en salle le 1er juillet. Zbigniew Pressner, les rééditions des musiques des films Bleu, Blanc, Rouge, La double vie de Véronique et Décalogue, c'est sous le label Because Music. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Je veux être belle, mais j'y arrive pas. Dans ma tête, c'est la joie, c'est la fête, dehors on danse.
Demain, la suite des 40 ans de chansons françaises, une émission famille avec Nash de la famille Chédid et le réalisateur-acteur Bruno Podalydès, c'est le frère de Denis. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Émilie Chaudet, Manou Farine, Aïssatou Ndoye et Elsa Béranger. Journal de la culture Zoé Sfès, traduction Eva Pavlikowska et à la réalisation Alex Dang et Yanis Joudad. À la prise de son Alex Dang et Yanis Joudad et à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours, la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Il est 19h53, vous êtes sur France Culture, mais c'est bien.